Budget Academy, le mag, l'interview.
C'est devenu un classique de l'émission. Je crois même qu'il a fait partie de nos essentiels lors de l'année de sa sortie. Vous venez d'écouter T99, un classique techno des années 90, mais relifté façon 2020 par Matt Ben. Et cette flopée de nouvelles relectures sortait chez Arkham Audio. Et là, eh bien, pour évoquer les 6 ans du label, nous sommes avec Jérôme, directeur du label. Il ne veut pas qu'on l'appelle le boss.
Non, pas le boss. Jérôme, c'est bien.
Et comme je le disais en intro, tu es une figure quand même assez balèze, puisque tu es DJ, producteur, patron de label, tu es également directeur de club.
Yes.
Avec toutes ces casquettes, on peut se demander à quoi peut ressembler ta journée type.
Il n'y a pas de journée type. je suis indépendant, donc je me lève, je vais me coucher en ayant mes business en tête, et je me lève en récupérant mes business directement dans la tête dès le matin. Donc j'ai 2 enfants, une grande de 18 ans qui va d'ailleurs bientôt aller étudier à Paris, et mon fils de 15 ans, mais mon fils de 15 ans, il faudra encore un peu le conduire pour qu'il prenne le bus, des choses comme ça. Donc j'ai ma vie de famille que je combine avec mes business toute la journée, tous les jours, même le week-end.
En tant que gérant de label, tu reçois combien de démos par semaine et combien de secondes tu laisses à un track pour te convaincre avant de passer au suivant?
ça va vite, hein. Honnêtement, ça va super vite de se dire « Ah ouais, tiens, ce track-là, ça pourrait matcher pour une release ou non, ça ne m'intéresse pas. » Mais je dois bien avouer que je reçois 4-5 démos par semaine. Et je les refuse presque automatiquement parce que, en fait, disons que j'accepte pas vraiment les démos. C'est moi qui démarche les artistes pour avoir des tracks originaux, quoi. Je préfère bosser plus avec mes envies que d'avoir une démo et de l'apprivoiser, de me dire tiens, peut-être, oui, non, je sais pas. Donc, ça vient de moi, en fait, la recherche.
J'ai interviewé il n'y a pas si longtemps que ça plusieurs musiciens du label Attraction, gros label français, 25 ans, ouais. 25 ans d'activité. Tous les musiciens appréciaient, on va dire, la direction du label qui ne retouchait pas les morceaux. Et on sait que dans le music business, certains patrons de label peuvent donner des retours ultra précis en demandant de modifier des breaks, de baisser tel arrangement. De ton côté, quand tu as un coup de cœur sur un titre, est-ce que tu suggères des améliorations ou est-ce que tu signes le titre tel que tu l'as découvert?
Je pense que j'ai demandé une fois l'artiste n'était pas d'accord avec moi d'ailleurs, mais c'était juste une question de mix parce que je trouvais qu'il y avait certains sons qu'on aurait dû entendre plus. Et à défaut, enfin, et à contrario, certains sons qu'on entendait trop fort, un peu les baisser. Donc revoir le mix général. Et l'artiste me disait, ben non, c'est pas nécessaire. Je dis, écoute, c'est ta vision, on le sort comme ça, alors c'est pas grave. Mais je demande jamais une modification de break, une modification de kick ou de sub ou quoi que ce soit. Chaque artiste a sa propre vision de son track, donc je suis personne pour lui demander de modifier son track, quoi.
Boss, oui, mais boss, pas trop chiant, quoi.
voilà, maintenant, je suis sélectif dans les tracks qu'on m'envoie. Oui, il y a des tracks que je trouve peut-être parfois inintéressants pour le label, mais qui sont intéressants quand même à sortir, mais pas pour moi.
On va écouter un autre musicien du label avec un autre extrait de la compilation des 6 ans. Oh là, je suis parti sur une grosse pointure, hein. DJ Dextro avec Figuras Rupestre, c'est comme ça que l'on prononce ou est-ce que je fais totalement erreur?
Je sais, il est portugais, donc je pense que ça, il doit y avoir un autre accent, mais bon, on est habitué avec les Français.
C'est un reproche ou c'est un constat, ça?
C'est un constat, jamais de reproche, toujours des constatations.
Et bon, on va écouter ce morceau, DJ Dextro, extrait de la compilation anniversaire du label Arkham Audio, et on se retrouve avec Jérôme tout de suite après. Thank you.
Academy, le mag, l'interview.
Nous venons d'écouter un morceau produit par un Portugais, donc je le prononce à la française, Figuras Rupestre. Il s'appelle DJ Dextro et c'est à retrouver dans la compile anniversaire du label Arkham Audio, un label dont le QG est basé à Liège. Et là, par le biais des internets, nous sommes avec Jérôme Delfos, a.k.a. Cri du Cœur. Parce que Cri du Cœur, ça c'est son alias, c'est son blast de musicien. Mais avec Jérôme, on a un parcours hors norme, DJ, producteur, patron de label. Il est également associé à un festival, il a également un club. Mais ses activités, on en parlera tout de suite après. Là, on va parler un petit peu économie, les trucs pas très rigolos, mais qui sont quand même une réalité côté coulisses. Aujourd'hui, est-ce que Arkham, c'est une structure rentable ? Ou est-ce que tu vois Arkham comme un outil artistique qui s'auto-alimente et qui te permet d'exister d'une certaine manière sur la scène ?
Deuxième choix. c'est franchement pas rentable au niveau investissement à choisir. Il y a d'autres business qui sont bien plus rentables que ça. Et comme je le dis, on le fait avec le cœur, avec la passion. Et je voudrais dire que je compte pas l'argent dépensé dans les releases, dans les business qui sont liés au label. Mais si je calcule et au final je me rends compte que c'est pas super rentable. Mais sans le label, sans le club, sans l'activité DJ, je me sentirais pas vivre. Donc c'est nécessaire pour moi de continuer à investir dans tous ces business là.
Là on réalise l'interview, moi j'ai la chance de t'avoir en visu. Très corporate hein, le boss, puisqu'il a un t-shirt avec le logo du label.
Obligé.
Aujourd'hui, si on parle de chiffres, qu'est-ce qui fait vivre le label ? Est-ce que ce sont les streams ? Est-ce que c'est la vente de fichiers son ? Est-ce que c'est les t-shirts ? C'est quoi la réalité économique derrière un label indépendant de musique techno ?
Je dois bien t'avouer que je n'ai pas développé à fond le branding et le merchandising. Je pourrais vendre des t-shirts, etc. Mais voilà, j'attends vraiment le bon moment pour le faire. Et qu'est-ce qui est rémunérateur ? Qu'est-ce qui est le plus rémunérateur ? Il y a autant les droits d'auteur et le qui sont liés au streaming et la vente de fichiers. Même si c'est des petits montants, c'est ça qui fait rentrer un peu d'argent, de cash flow dans les caisses.
Dans le music business, le support vinyle reste important dans l'imaginaire techno. Pour toi, est-ce que c'est encore un vrai enjeu ou est-ce que c'est surtout un objet symbolique et collector pour certaines sorties ?
Écoute, là je relance la production de vinyle à partir de la 35e release, donc pas la production, pas la compilation pour les 6 ans, la prochaine release. Je pense que c'est plus un outil marketing, de mon point de vue, en tout cas pour un petit label techno, que un pur produit qui va faire exploser les ventes pour un petit label comme le mien en tout cas.
Et au quotidien, qu'est-ce qui te prendrait le plus d'énergie ? C'est l'administratif, la logistique, la promo, la gestion humaine des artistes ou l'ego des artistes ?
Sur les 30 ans que depuis donc 30 ans que j'organise des soirées, j'ai envie de dire que l'ego des artistes ou la personnalité des artistes, on va plutôt dire ça, j'ai appris à vivre avec et c'est pas un problème. Par contre, ce qui est vraiment chiant, c'est l'administratif. Surtout en Belgique où tu dois faire attention à tout, quoi. Gérer les comptes aussi, c'est pas toujours évident. Alors gérer la programmation d'un club, c'est pas aussi le truc le plus sympa à faire. Ça peut être sympa, mais il y a des moments où quand on doit vraiment chercher la rentabilité, ça devient plus compliqué.
Bon, je vois que la fiscalité, c'est pas plus simple en Belgique qu'en France.
Non.
Eh bien, on compatit et on t'adresse tous nos encouragements.
Merci.
Avant de poursuivre mes questions, parce que j'en ai plein d'autres pour évoquer les 6 ans du label Arkham, on va revenir en 2022 avec l'un des premiers albums édité par ton label. C'était l'album de Trunkline. L'album s'appelle Mercy et on va redécouvrir Morperk, qui est un petit tube underground. Donc Trunkline, duo français, signé sur le label belge Arkham Audio et on se retrouve tout de suite après.
Academy, le mag, l'interview.
Nous venons d'écouter Morperk par Trunkline, et ça c'est un extrait de leur album Mercy qui sortait déjà en juin 2022. Et ça c'est une des nombreuses références du label Arkham Audio qui est à l'honneur cette semaine dans DJ Academy. Et pour évoquer le label, là nous sommes en liaison avec Jérôme Delfos, aka Cri du Cœur, DJ, producteur, patron de label. Et puis on va évoquer tes autres activités tout de suite après. Tu es toi-même musicien, quand tu te signes sur ton propre label, tu dirais que tu te comportes comment envers toi-même ? Comme un patron exigeant ou comme un artiste chouchou ?
Super critique. J'ai vraiment du mal à vraiment aimer mes tracks. Et d'ailleurs, je joue jamais mes tracks. Je sais pas pourquoi, je sens que je me sens plus à l'aise à jouer des tracks de quelqu'un d'autre que de jouer mes propres tracks. J'ai toujours peur aussi peut-être que le track soit pas bien reçu par le public qui est devant moi. Et ça me ferait vraiment trop mal au cœur de voir personne danser sur un de mes tracks. Donc je préfère jouer les tracks des autres, et s'ils dansent pas, c'est de la faute des autres artistes.
Est-ce que tu t'imposes les mêmes standards et délais qu'aux autres artistes, ou est-ce que tu te gardes un espace laboratoire pour tes propres sorties ?
Écoute, quand j'ai des tracks à sortir sur mon label ou sur un autre label, bah, je les propose. Sinon, si j'ai rien de prêt, je mets l'honneur à d'autres tracks d'artistes qui me plaisent. Donc, il n'y a rien de figé en tout cas.
Et tu peux nous citer quelques labels sur lesquels tu as signé, toi ?
Flash Recordings. Donc le label de Florian Mendel, un label berlinois. J'ai signé sur Ned & Payne, c'est un label anglais. C'est le label de Dance & Pika. J'ai sorti ici, bientôt je sors sur le label de Perk, un track pour Avarius. Et puis récemment, Analytic Trail et On Edge Society.
Le fait d'écouter en permanence les démos des autres, est-ce que tu dirais que ça nourrit ta musique, ou est-ce que tu dirais que ça finit par parasiter ta patte ?
Aucun des deux. les démos que j'écoute sont au même titre que les tracks que j'écoute sur Beatport quand je fais mon petit marché des nouveautés. Donc il y a toujours un style ou une couleur que je vais à un moment ou l'autre utiliser dans un de mes tracks. Ma patte de producteur reste toujours ouverte à plein de choses.
Arkham Audio, c'est un label qui a été créé à Liège, tout comme une partie de ton histoire et celle du Link Festival. Qu'est-ce que cette ville pourrait t'apporter de spécifique à ton projet, à la fois à ton projet musical et à ton label ?
Déjà, la proximité avec les clients, on va dire, parce que la plupart des gens qu'on côtoie en festival, en soirée, on peut avoir un échange très rapide avec eux. Et c'est des têtes qu'on revoit. Il y a même des gens qui sont devenus des amis entre-temps. Donc c'est vraiment cette chaleur avec les clubbeurs liégeois et les échanges qu'on peut avoir. Ça nous apporte vraiment quelque chose, que ce soit dans les organisations de festivals ou dans la production musicale.
En France, le monde de la musique techno en général est secoué par une proposition. On a peut-être entendu parler ?
Non.
Eh bien, je vais détailler tout ça. Donc, proposition de loi numéro 1133 visant à renforcer la répression des free parties et des rêves illégales en France. Un projet porté par une députée, Laetitia Saint-Paul. Et elle doit débattre à l'Assemblée nationale le 9 avril prochain lors de la niche parlementaire du groupe Horizon. Ça, c'est ce qui se passe chez nous en France. Toi, de ton côté, comment est-ce que tu vois l'avenir des événements techno à Liège et en Belgique ? Est-ce que tu serais plutôt optimiste ? Ou est-ce qu'il y a également de votre côté des pressions politiques, économiques ou sociales, ou des choses qui rendent les choses plus fragiles ?
Ici à Liège, on a toujours eu un problème de voisinage, de nuisance avec les voisins, pour les voisins. Ça, c'est vraiment une décision politique du bourgmestre de Liège de ne pas vraiment mettre en avant tous les acteurs un peu underground ou alternatifs, des acteurs musicaux en tout cas. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là, au niveau politique, mais il n'y a pas de loi visant une répression forte, comme vous, vous pouvez avoir en France, et comme vous avez déjà souvent eu. On a moins de free party en Belgique, il y en a, il y a une scène d'ailleurs assez forte là-dessus, mais c'est beaucoup moins présent qu'en France. Donc ce qui justifie certainement qu'une députée monte au créneau pour un peu amener de la répression sur, sur la culture underground.
Bon, et puis le coup de la nuisance sonore, je pense qu'on l'a partout.
Oui, oui, mais à Liège, c'est particulier. J'ai vécu deux fermetures de clubs où j'organisais des soirées parce que les voisins n'étaient pas contents, quoi. Donc, et on a des problèmes avec le club actuellement. On a des problèmes de voisinage.
Bon, je vais essayer de faire de l'humour. Du coup, on va faire une spéciale.